France Culture.
Chassez croisés de Marie Nimier. Réalisation Christine Bernard-Sugy. Avec Martin Amic, Anouk Grimbert, Jean-Pierre Malot, Sabrina Kourougli, Garance Clavel. Chassez croisés. Les patins, avec Martin Amic.
J'ai peur. Peur de décevoir, peur de tout mélanger, peur du trou de mémoire, peur de la mauvaise chute, peur de... La peur est une impression. La peur est un dysfonctionnement du système nerveux. Est-ce que ta langue a peur? Non, ta langue n'a pas peur. Est-ce que tes os ont peur? Non, tes os n'ont pas peur. C'est le plexus qui se resserre. Il faudrait bâiller, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je bâille? Qu'est-ce que tu vas penser? Que je m'ennuie? Que tu m'ennuies? Pensez à des choses très simples. De l'air froid sur de l'air chaud, une odeur de linge frais, les flocons de neige qui dansent derrière les carreaux. Du temps de l'ancienne patinoire, la caissière mettait toujours des fleurs devant son guichet, des ignats, des tulipes, et à la fin de l'année, un sapin qui clignotait. C'était son fils qui nous aidait à lasser les patins. Son pantalon de velours côtelé était usé au niveau des genoux. Il descendait très bas sur les hanches. C'était bien le premier à les porter comme ça, ses pantalons. Un peu lâches et très bas. Il s'appelait comment déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Un nom avec un accent pas comme les autres. Noël, oui, Noël. Le fils de la caissière s'appelle Noël. Il porte une bague en argent à l'index. Ses gestes sont lents et précis. Ses lèvres se crispent lorsqu'il faut serrer. Quand la chaussure emboîte étroitement le pied, il tape deux petits coups sur la lame avec sa bague. C'est le signe de la fin, le signe de la perfection. Il sait tenir la cheville sans la comprimer. Il sait dire sans parler et voir sans regarder. J'aime bien Noël. Plutôt, j'aimerais bien lui ressembler. Avoir une bague en argent comme lui à l'index, un tréma sur mon prénom, des taches de rousseur, et une mère qui travaille à la patinoire. C'est son asile, la patinoire, sa forteresse. Je le revois, accoudé à la balustrade. Il ne porte jamais ni bonnet, ni écharpe, jamais ne se plaint du froid. C'est pour lui que je patine. Oui, pour attirer son regard. L'élargir, l'épater, comme on dit d'un nez qu'il est épaté. Je veux rentrer dans son corps par ses yeux, l'occuper tout entier. Je veux l'envahir, je veux être lui, marcher comme lui. Ne jamais avoir froid comme lui. Et comme lui, taper deux petits coups sur la lame. Ma mère aurait préféré que je fasse de la danse. Elle trouvait que j'avais des dispositions. C'est comme ça qu'elle dit, des dispositions. Le patin, ça ne l'enchante pas. Elle trouve ça kitsch, le patin. Un truc pour la télé. Enfin, mieux que rien, après tout, mieux que le foot ou les jeux vidéo. Elle a de l'ambition pour moi. Elle s'est acheté une doudoune réversible avec de la soie des deux côtés et du duvet à l'intérieur. Ça coûte une fortune en pressing, toutes ces choses qu'elle achète. C'est important pour elle, les vêtements. L'allure, la propreté. J'ai une maman très belle et très compétente. Au début, elle vient en leçon. Au début, on tourne en rond. Ce n'est pas difficile, il faut juste s'habituer. Les genoux sont souples, sans exagération. L'allure change, le corps se libère de la pesanteur. Le corps s'allège et ma mère bâille. Elle s'ennuie un peu à l'intérieur de sa doudoune. Et ça ne m'est pas désagréable de la voir s'ennuyer. Elle me fait penser à ces glaces à la vanille coincées entre deux gaufrettes. Je me demande s'ils vont aimer les jeunes au premier rang. Ils sont venus avec leur professeur de français. Il fait chaud dans cette salle. Ils s'éventent avec le programme. Je dois les rencontrer après la représentation. Peur de les décevoir. Peur qu'ils se moquent, qu'ils ne comprennent pas. Elles sont jolies, les deux filles. On dirait des jumelles. Cette femme là-haut, qui joue avec son collier. Noël avait des doigts très fins. Ses paupières tombées sur ses yeux, comme ceux de cette actrice, comment s'appelle-t-elle déjà ? Mais si, tu ne connais qu'elle, cette actrice avec les paupières qui tombent. Je n'ai pas la mémoire des noms, mais curieusement, j'ai toujours eu celle des figures. Pas des visages, non, des figures. La mémoire des enchaînements. J'ai toujours aimé ça, glisser d'une forme à une autre, d'un mot à un autre, d'une histoire à une autre histoire. Patiner, c'est travailler sa trace, disait notre professeur. Travailler sa trace, comme on travaille une phrase, avec ses pleins et ses déliés. On affûte les lames comme on taille en crayon. Tous les mercredis et tous les samedis, j'écrivais sur la glace d'interminables déclarations. Je gravais nos initiales, suivies d'un cœur maladroit. C'était mon écorce à moi, ma feuille, mon écran sur lequel je projetais mes rêves les plus secrets. Je me faisais peur exprès, je prenais des risques inouïs. Je tombais, je me relevais. Ma mère mettait de la crème à l'arnica sur les bleus. Flip, accel, salto. Bien ferme sur la carte, disait le professeur, bien ferme. À quoi tu penses ? Les patins, disait ma grand-mère lorsque nous arrivions dans le couloir qui menait au salon. Pas bonjour, pas bonsoir, non. Les patins. Nous mettions nos petits pieds sur les langues de feutre. Elle devenait tout sucre. Nous allions l'embrasser. J'aimais son odeur de poudre. Elle est morte un jeudi. Nous avons fait le pont. Il y a des filles à la patinoire qui font le grand écart. Avec leur jupette, le grand écart, l'intérieur des cuisses bien à plat sur la glace. Rien que d'y penser, ça donne des frissons. On dit que la meilleure glace se trouve sur les eaux stagnantes. Si d'aventure elle se casse, il faut se mettre à plat ventre sur les bords du trou. Me voilà à plat ventre sur les bords du trou. Le fils de la caissière m'aide à sortir de la piste. J'ai mal à la cheville. Il m'entraîne à l'infirmerie, enfin, ce qui tient lieu d'infirmerie. Une petite pièce au sous-sol où s'entassent les costumes des spectacles de fin d'année. Des ponchos, des sombreros, des robes de princesse. J'ai les lèvres sèches, la gorge sèche et les genoux mouillés. Il fait très sombre dans les couloirs. Mon regard se fixe sur le rectangle vert de la sortie de secours. Mes yeux s'habituent à l'obscurité. Et ma bouche à sa bouche. C'est la première fois que j'embrasse quelqu'un comme ça. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi doux. Nous sommes sur le lit de camp de l'infirmerie et le monde bascule, il rit. C'est le lit qui se ferme sur nous. Je crois que c'est la première fois que je le vois rire. Il est heureux, il me dit qu'il est heureux en passant sa main dans mes cheveux. Il me serre, comme on serre une femme. Et puis, soudain, il s'éloigne. Je ne sais pas pourquoi je pleure. Je n'ai pas mal, non, ce n'est pas ma cheville qui me fait mal. Il m'essuie doucement les joues. Il faut y aller, me dit-il. Je dois y aller. C'est l'heure de ranger les patins. Je pense de les ranger les patins, pas de les rouler. Et à mon tour, je me mets à rire. Nous remontons en nous tenant par la main. Ma mère est là, en haut de l'escalier. Et c'est comme si elle voyait le fils de la caissière pour la première fois. Elle regarde d'un air détaché nos deux mains qui se tiennent. Il n'y a pas d'hostilité dans ce regard, pas de sympathie non plus, et c'est là le plus effrayant, qu'il n'y ait rien, une lumière opaque. Le médecin est formel. Je dois arrêter toute activité sportive au moins 4 semaines à cause de ma cheville. Il faut laisser reposer les ligaments. Nous partons en vacances. De grandes, de longues, d'interminables vacances dans le Finistère. Ma grand-mère n'est plus là pour nous dire « les patins ». Et j'ai du mal à traverser le salon en sandales. Je passe de longues heures sur la plage. Marcher dans l'eau me fait du bien. À la rentrée suivante, ma mère me propose de m'inscrire au Conservatoire supérieur de danse. Elle s'attend à ce que je proteste, à ce que j'insiste pour retourner à la patinoire. Elle a dû préparer tout un discours pour m'en dissuader. Mais non. J'accueille sa proposition avec soulagement. Elle me délivre d'un désir trop grand pour mon âge. Je ne veux plus voir le fils de la caissière. Ne plus y penser. L'oublier. J'ai mal aux dents. Il faut que j'aille chez le dentiste. Quand je reste la tête longtemps penchée en avant, ça lance entre mon nez et ma bouche. L'année du conservatoire, j'ai eu mon premier appareil dentaire. C'était drôle, je me disais, comme si le fer des patins m'était remonté dans la bouche. Un petit grillage pour me protéger du monde des grands. Un petit barbelé dont il fallait tous les 3 mois resserrer les vis. Au début, j'avais du mal avec le sol. Sur la glace, tout résonne. Chaque geste, chaque impulsion provoque une envolée dans l'espace. Alors que le sol, comment dire? C'est comme la vérité dans la tête des adultes. Un mot est un mot, un pas est un pas, point final. Ça s'arrête là. Le sol, au début, j'avais l'impression qu'il était mort. L'impression d'avancer sur un élément défunt, du bois coupé, la peau tendue d'un animal. Et dessous, il y a la chair. Comme dans les chaussons des petits rats de l'opéra, si c'est vrai ce qu'on dit qu'elles mettent des escalopes crues dans leurs pointes pour soulager leurs blessures. De la viande au bout des pieds, par-dessus la peau. C'est drôle, les petits rats. Pas vraiment gracieux comme nom. Les petits rats en tutu. 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 Tutu, petit rat. Ligueur carnassière, dents qui rayent le parquet. Parce qu'il en faut de l'ambition. Beaucoup d'ambition pour endurer ce qu'on endure. Je comprends bien ce qu'ils veulent dire avec ça, petit rat en tutu, le côté rongeur de l'histoire. Avec ce sol qui vous tire par les pieds, ce sol qui vous ramène sans cesse à la réalité. Mais à force, comme quoi? À force, je me suis habitué, j'ai grandi, je crois. Du sol, j'ai fait mon ami, j'ai apprécié sa stabilité, j'ai apprécié sa fidélité. Le sol, c'est pas comme la glace. On peut compter sur lui, compter sur son appui. De mon corps aussi, j'ai fait connaissance. Impression jusque-là de n'avoir fait que tourner autour de lui à toute vitesse, sans jamais m'y poser vraiment. J'ai découvert de nouvelles façons d'articuler les gestes, et même de nouveaux gestes que je connaissais depuis toujours. Des gestes tout simples. Le geste, on verra bien. La paume vers le ciel. Le geste du silence, un doigt posé sur les lèvres. Tout ça, c'est de la danse. Même l'immobilité, c'est de la danse. Même le baiser de Noël, c'était de la danse. Et les saluts aussi, de la danse. De la danse, de la danse. Peur. Peur, peur. Peur de ne plus savoir dehors comment il faut parler. Peur de quitter la scène, de retrouver les jeunes du premier rang. Peur d'affronter leurs questions. peur des mots qui manquent, des discours convenus, des réponses impossibles. Le spectacle est fini. Et alors, si on restait encore un peu, étirer chaque geste jusqu'au bout de lui-même, un corps suspendu, voilà ce qu'il faudrait. Suspendre le temps comme un manteau d'hiver, le tout moelleux, moelleux. Une jambe en guise de pendule, s'en remettre au silence, retrouver le mouillé et le fondant, retrouver Noël et ses lèvres qui saignent. Oui, un peu. Je crois que je l'avais mordu un peu. C'est le mal du pays. J'aimerais que tout se remette à tourner, que ça ne s'arrête jamais. L'idéal, ce serait de patiner sur des fers à repasser. Pas de crissement, pas de questions. Pas de racines, pas de crampons. Ça glisserait tout seul autour d'un axe invisible. Je retiendrai mon souffle et l'histoire s'effacerait comme les rayures, les plis, les rides au passage de la réglette d'une ardoise magique.
Chassé croisé, la balançoire, avec Anouk Grimbert.
Je dresse l'inventaire comme on dresse une table. Suis-je l'assiette ou le couteau? Suis-je la dinde ou l'œuf au plat? J'ai 7 ans. Ma sœur fait le cochon pendu. Elle se balance à toute volée sur le trapèze du portique. Il a plu, je l'admire, je la trouve tellement jolie avec ses cheveux dénoués, tellement plus jolie que moi, cette façon de se lancer, de s'élancer à la conquête de l'espace. Elle crie « je vole » et je l'envie, moi, assise sur le pas de la porte. J'aimerais être à sa place et dire « je vole » et je l'ai vue tomber avant qu'elle ne tombe elle-même. Cette seconde de suspension où les destins se jouent, mon Dieu, cette seconde. J'aurais dû me lever. J'aurais dû crier, je suis restée immobile, pétrifiée par l'inacceptable évidence de la catastrophe.
Est-ce que je peux voir ça, Chloé, à ta place? 5, 6, 7, 8, premier groupe. 1, 2.
Petite sœur, c'est pour toi que je danse, pour toi que chaque jour je dresse la table. Et je danse parce que je sais une chose, un corps est vivant et l'instant d'après, il est mort. Je ne cherche pas le succès. Je dirais même que le succès me dérange. Comme si j'exploitais ma sœur à mon avantage, que je lui prenais ses ailes. Non, je ne veux pas de vos applaudissements, ils me font mal. Mais vous applaudirez quand même, voilà. C'est inscrit, c'est comme ça, au théâtre. C'est la convention, même si on n'a pas trop aimé, on applaudit. Parce qu'il y a quelqu'un en face qui s'est donné du mal, tout de même. Alors je me dirais que vous applaudissez la chorégraphie, les lumières, la musique, mais moi non. Moi, vous ne m'applaudirez pas parce que je ne le mérite pas. Je suis une femme qui travaille, comme beaucoup d'autres femmes qui travaillent. Je suis une question qui ne demande rien, juste posée, là, sur un plateau. Une question posée, campée, bien campée. Et c'est drôle, cette femme avec le collier près de la sortie de secours, on dirait qu'elle cherche à attirer mon attention depuis tout à l'heure. Elle me dit quelque chose en tripotant les perles de son collier. Elle égrène son chapelet. Ma sœur était blonde à l'époque, avec des mèches presque blanches, comme cette femme. Et son voisin, qui regarde sa montre, il est pressé, il a envie d'aller se coucher. Tête sur l'oreiller, cou, poitrine, plexus ouvert, bassin en place, cuisse, genoux, mollet. Pied. Danse, petite fille, danse. Montre-nous ce que tu as appris à ton cours. Il a l'air bien ton nouveau prof, non ? Elle parle à ses amis. Un homme, ça change, oui, vous imaginez un homme entouré de toutes ces petites filles ? Ma mère me dévore des yeux. Elle est tellement fière de moi. Mon père sort son mouchoir de sa poche. Ça lui donne toujours envie de se moucher quand je danse. Peut-être pense-t-il lui aussi à ma sœur, au froid de la tombe. Et ma mère tape dans ses mains. Elle compte très fort pour me donner le départ. Très tôt, je l'ai su, si je voulais survivre, je devrais mettre une couche de muscles entre elle et moi. Réinventer mon corps, le sculpter, l'arracher au naturel. J'aime beaucoup mes parents, ce n'est pas ça. Mais je ne descends pas d'eux, je ne descends de rien. Si ce n'est d'un portique dont la corde a lâché. Je fus cet enfant maladroit devant une mère trop belle. Une mère qui pleure son aîné en froissant mes cheveux. Ma sœur m'a disparu. Je suis son dessin dans l'espace, son ombre dans la rue. Je n'ai pas peur, je n'ai pas mal. Je n'aurai plus jamais peur, je n'aurai plus jamais mal. J'ai construit mon palais, j'ai créé mon écorce. Et les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Je me suis rangée dans un étui. Ce qu'il y a à l'intérieur ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à dire, rien à exprimer. Je suis un ensemble de cellules qui reçoivent et qui donnent. Je trouve la force de vivre dans le mouvement même. J'avance, voilà. Comme mon père et mon grand-père qui construisaient des maisons avec leurs mains, je travaille. Comme mon oncle et mon grand-oncle. Et le portique, c'est eux aussi qui l'avaient construit. Bien solide, les pieds rivés dans du ciment, mais les cordes s'usent, et plus souvent en Normandie. Ma sœur, c'était sa maison, ce portique. Son nid. Et son destin. Il faut que j'arrête. Je dois chasser cette image, elle ne me sert à rien. Je sens mes lèvres trembler. Je n'aime pas les danseurs qui laissent passer leurs émotions sur leur visage. Ceux qui lancent des œillades. J'ai l'impression qu'ils font le trottoir. Ils me dérangent. Ils me ramènent à eux. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de leur petite vie, de leurs petites émotions, de leurs feintes, de leurs paupières. Je suis un monstre. Je suis devenu un monstre. Mon corps est d'une solidité à toute épreuve. Je dresse l'inventaire et, le moment venu, je mets la machine en marche. Mes mains sont économes, l'heure n'est pas au bavardage. J'aimerais danser sans manière, comme un compas trace un cercle, comme une boussole indique le nord. Annuler le visage, annuler l'expression, faire impression, imprimer. Une forme qui découvre l'espace, qui ouvre le chemin vers une autre dimension. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour créer des trajets qui n'existent pas. Un chemin entre ma sœur et moi. Qui le fera si je ne le fais pas ? Je ne sais plus qui disait ça. Un chorégraphe, quelqu'un de très important, un Américain, je crois. Il disait... La seule façon de le faire, c'est de le faire. Et je le fais. Je m'entoure d'une matière qui n'est pas moi, qui n'est que du travail, de l'exploration. Chaque jour, je m'entraîne jusqu'à l'abrutissement. J'y puise l'inépuisable enchaînement des gestes. Mais à chaque fois que je saute, c'est la terre qui se tasse sous mes pieds. La terre où ma sœur est enterrée. Mon Dieu! Ma pauvre fille, ce que tu peux être pathétique. Mais personne ne le saura, personne, jamais. Je suivrai jusqu'au bout la devise de Guillaume d'Orange. Je maintiendrai. Et voilà. Je me redresse et je fais silence. Le maintien, ma chérie, le maintien. Et ferme bien ta cinquième position avant de prendre tes tours en l'air. Mademoiselle Desrien, mon premier professeur de danse. J'adorais son phrasé. Sa façon de dire « Ma chérie, il faut laisser éclore ton mouvement. » Laisser éclore, c'est tout de même mieux qu'optimiser, non ? Quand je serai morte, je donnerai mon corps à la science. J'aime bien l'idée de ces jeunes personnes se penchant sur mon cas. Je suis un excellent sujet pour l'étude de la musculation. Il faudra que je rajoute ça sur la fiche. Ne prenez pas mes reins, ils ne valent pas un clou. Étudier mes adducteurs, mes abducteurs, mes abaisseurs et mes suspenseurs. étudier mes rotateurs et mes jumeaux. Et remarquer au passage mon coup de pied magnifique, n'est-ce pas? J'aimais bien les pointes à l'époque. Les filles se plaignaient que ça faisait mal. Et moi, je pensais, oui, ça fait mal, la danse, ça fait mal. Et je trouvais ça normal d'avoir mal. Je n'en parlais jamais à personne. Je n'en ai jamais parlé. On racontait qu'à l'opéra, les élèves coinçaient leurs orteils sous les radiateurs pour forcer la cambrure. Ou alors elles mettaient leurs pieds chaussés de pointes dans des boîtes. Et quand elles se redressaient, ils étaient bien obligés de se recourber. Mettre son corps en boîte. Ma sœur était très belle, allongée dans son petit cercueil. Elle ressemblait à un dessin. Ma mère ne voulait pas que j'aille l'embrasser. J'ai pris sa main en cachette. J'avais peur de déranger sa robe. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi si j'avais dû faire un vrai métier, comme disent les amis de ma mère. Et à part la danse, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Rien, elle ne fait rien à part la danse. Parfois, elle épluche des pommes. Mais ce n'est pas un métier, ça, éplucher des pommes. Mais si, c'est un métier, éplucher des pommes, des carottes, des asperges, couper des pommes de terre, écosser des petits pois, équeuter des haricots verts. Ah bon? Allons. Faire silence. Arrêter le mouvement des pensées. Il n'y a rien à voir que des choses sans importance. Créer, effacer, faire des dessins à la craie sur le trottoir. Le pied prend ses repères, le bras s'élance. J'aurais dû me cacher sous une pile de linge pour ne plus en ressortir. Je devins très étourdie après l'accident. J'oubliais tout. Le pain, mon manteau. Tu vas finir par oublier ta tête, disait ma mère. Et j'ai oublié ma tête. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Oublier ma tête. Effacer mon visage. Dresser la table avec une double couche de molleton sous la nappe brodée. Dresser l'inventaire pour être sûre de ne rien avoir oublié. Cou, poitrine, bassin, cuisse, mollet, pied, rien oublié. Sous un ciel de feutrine et l'esprit qui s'enfuit. Sur place, en l'air, côté, dégager, développer, flexion buste, abaisser, abaisser, abaisser le centre de gravité, décentraliser. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Décentraliser, laisser le mouvement parler à ta place. Je guette les muscles, les douleurs, les réactions. Debout au centre du tapis à faire mes pitreries, tout le monde admirait mon grand écart. Mais on m'est trouvé si dure, malgré toute cette souplesse. Je crois que j'effrayais les amies de maman. Elles applaudissaient dès que je marquais une pause. Comme pour que je m'arrête, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ces contorsions. Mais je ne m'arrêtais pas. Je dansais longtemps, trop longtemps. Flexion, extension, rotation, sans ornement, sans complaisance, sans émotion. Ça leur foutait le bourdon aux amies de ma mère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Avec son collier. Elle va s'étrangler à force de tirer. On dirait que... Un peu, oui. Elle ressemble un peu à... Puis, cette façon de ne pas tenir en place. Pour ma sœur, l'immobilité était douloureuse. Va éliminer ta bougeaille, disait mon père qui ne supportait pas de la voir gigoter. Va éliminer ta bougeaille. C'est pour ça qu'il lui avait construit le portique. Lui et son frère, pour qu'elle aille éliminer sa bougeaille.
Chassé croisé, l'audition. Jean-Pierre Malot, Sabrina Kourougli.
Nous allons remonter très loin, Tristan. Hein? Ou poisson. Ah tiens, je te vois bien au poisson, Tristan. Très très bien. Tu t'appelles bien Tristan, n'est-ce pas? Oui, ça t'embête pas que je te tutoie? Bien. Bien, alors écoute-moi bien attentivement, Tristan. Ton âme est ouverte, ton corps est hospitalier. Hein? Tu es l'écrin du poisson. Voilà, tu es une carpe. Oui, bien, Tristan. Alors, développe le poignet, voilà, tu remontes au coude, hein. Tu remontes le courant. Tu es un saumon qui remonte le courant, et le courant, c'est quoi? Hein, c'est quoi, Tristan, le courant?
Le courant, l'homme qui court, comment ça court, un poisson? Un poisson pressé? Il est beau, ce type, encore plus beau que sur les photos. Il ressemble à Michel Piccoli. Un Michel Piccoli avec des cheveux. Je me demande si c'est un les cheveux.
Très bien, Tristan. Très, très bien. Oui, voilà. Tu y es. Garde cette phrase et mets-la en boucle. Hein? Tu connais cette chanson de Nougaro? La danse est une cage où l'on apprend l'oiseau. Bien. Alors, une cage, Tristan. Une cage. Thoracique. Une cage de Seine, un aquarium si tu préfères, avec des algues et du gravier au fond.
Je me demande ce qu'il attend de moi. Il m'a vu dans le spectacle de Marion Ski à la ferme du Buisson. Il a dû aimer mon travail, sinon je serais pas ici. Mais bon, dans le Marion Ski, on voyait que mes mains. Enfin, un peu les bras aussi. Le reste de mon corps était caché par un rideau. Mes mains. Il aime mes mains. Allons, mes petites mains, mes petits doigts, chérie, donnez le meilleur de vous-même.
Et maintenant, les ouïes, Tristan. Hein, concentre-toi sur les ouïes. Ce passage de l'extérieur à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Développe. Développe. Intérieur. Extérieur. Inspiration. Expiration. Laisse remonter les souvenirs à la surface. Les mots, les émotions.
Dire qu'ils sont en train de faire griller des sardines dans le jardin. J'adore les sardines. S'il n'y avait pas cette odeur qui reste sur les doigts. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, les ouïes. Les ouïes du poisson.
Une audition. Passer une audition, c'est drôle comme façon de dire pour un danseur.
Mais c'est quoi ces choses sur ton ventre? Hein, c'est quoi ces machins disgracieux?
Sur mon ventre? Qu'est-ce qu'il a, mon ventre?
Ce sont des pattes, Tristan. Des petites pattes de derrière. Et drôlement utile avec ça. Hein. Des pattes pour gambader, creuser, enfouir et ramasser. Évolution! Révolution! Tu manges des feuilles et des insectes. Tu peux parcourir des kilomètres sur la terre. Tu es un lézard. Un mulot. Une taupe. Voilà, tu es une vache. Une poule. Un hérisson. Fais-nous entendre ton cri. Hein, fais-nous entendre ton cri, Tristan. Tu es un chien.
Le chien de ma tante s'appelait Raymond. Mais tout le monde l'appelait Kiki. Kiki par-ci, Kiki par-là. Il dormait dans le garage derrière la voiture et puis un jour, il s'est mis carrément dessous. Puis...
Amuse-toi, Tristan. Cabotine. Fais-nous tes yeux qui pleurent, tes paupières de coquère. Voilà, fais-nous les babines en cœur. Joue au susu grâce à mes mères avec tes pattes arrière. Fouille, Tristan. Fouille dans tes souvenirs. Laisse-toi contaminer par un chien précis, tu le vois? Prends ton temps. Prends ton temps. Je sens que ça arrive. Voilà.
Et puis, l'été dernier,
oui.
Ils étaient sur un banc, derrière la gare Saint-Lazare. Tous les deux, très sérieux. Comme s'ils attendaient la fin du monde. Soudain, la femme a parlé en montrant un chien qui traversait la rue.
Tu vois, c'est un chien comme ça que ma mère, elle a. Mais avec des oreilles en pointe. Avant, il leur coupait la queue et les oreilles. Ça coûte 6000 balles, un machin de ce genre. Et l'autre, il a laissé un grand silence et réfléchissait, puis il a lâché...
Ben moi, je préfère acheter un mouton et le bouffer à Noël.
Attention, Trista, ne te déconcentre pas. À mon signal, changement d'échelle. Zoom avant. On se rapproche, on entre dans les poils. On travaille sur les parasites. Les parasites du chien. Le pouls, la puce. Hein? C'est parti, Trista. Saut de puce. Léger, léger, léger. Plus bas les pliés. Et hop, suspension. Voilà. Alors va chercher ta petite bête au fond de ton ventre. Voilà, va chercher ta puce. Prends-la à bras-le-corps. Dépasse tes limites. Une puce, tu es une puce. Non pas au sens figuré. Une vraie puce montée sur des ressorts. Voilà, voilà, une puce joyeuse. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, tu t'approches. Éclabousse le monde de ta puce joyeuse. Oui.
C'est pas fini cette histoire de tendon. Ce nez qui me gratte.
C'est drôle les ailes. On dit les ailes du nez. Les ailes du nez. Le nez zélé.
Les ailes qui palpitent. Le nez retroussé comme on retrousse une jupe.
Tu sens cette odeur? Hein? Quelqu'un approche, Trista. Quelqu'un qui ne te veut pas que du bien, hein? Psst. Tu as la tête qui tourne.
Psst. Ne pas décrocher. Ne pas perdre l'équilibre.
Psst. C'est la mémère avec sa bonbombe. De l'insecticide, la petite vache. Tu tousses. Tousses. Voilà, oui. Tu tombes. Tu comptes jusqu'à 10. Tu te relèves, Trista. Résurrection, nouveau décor. Bien, voyons, voyons, voyons. Alors, les pieds. Hein, les pieds, maintenant, on va travailler les pieds.
Je me rappelle ce type à l'école. Ce danseur qui était venu nous parler de son métier. Enfin, nous parler, façon de parler. Il nous avait obligés à nous déchausser pour bien sentir le sol. Et moi, j'avais refusé. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que mes pieds allaient gonfler si je les enlevais de mes chaussures. Devenir monstrueux, au contraire, se liquéfier, se répandre par terre. Il m'avait demandé pourquoi je me déchaussais pas et j'avais prétexté que j'avais des semelles orthopédiques, que je devais les porter tout le temps. C'était horrible. Tout le monde me regardait. Et lui qui fronçait les sourcils en me répétant « des semelles, des semelles ».
Tu te souviens de l'ours de Pina Bausch? Hein, l'ours blanc de Pina Bausch qui laisse ses empreintes dans la neige. Eh bien, maintenant, tu es l'ours de Pina, tu fais corps avec lui. Bien. Alors, tout bas dans ta tête, tu te répètes, je suis l'ours de Pina. Hein? Bah, tiens, dis-le tout fort. Je suis l'ours blanc de Pina Bausch.
Je suis l'ours blanc de Pina Bausch. Je suis l'ours blanc de Pina Bausch.
Martèle avec les pieds. Je suis l'ours de Pina. Je laisse mes empreintes sur la neige. Quel est le point commun entre l'ours de Pina et toi? Oui? Tu as vu ce spectacle au moins? Sous la rampe, quelqu'un racontait l'histoire d'une mouche. Une mouche d'une espèce particulière qui vit dans l'œil de l'hippopotame, elle se nourrit de ses larmes. Alors, nourris-toi de tes larmes. Hein, souffle dedans comme on souffle du verre. Tu es un ours blanc qui fait des bulles de savon. Un ours savant. Un ours qui mange du miel comme dans les livres pour enfants.
Un goût de chocolat. Je n'aurais pas dû manger de lion avant de venir. Non, pas un lion, un ut. C'est l'autre qui m'influence avec son bestiaire. Un ut. Pas dû manger ce nuts. Si c'est vrai ce qu'ils disent dans les journaux, il suffirait de manger du poisson. D'après les statistiques, dans les pays où l'on en mange beaucoup, les gens sont moins violents, moins suicidaires, moins dépressifs que les autres. Et leur quotient intellectuel est plus haut. Moi, rien à craindre. Je mange du poisson tous les jours. Des filets de carrelet, du thon en bois, des pavés de saumon.
Non, 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 Trista, Trista, tu n'y es pas. Recentre-toi, retrouve ton nord, ton sud. Cherche ton orient et ton occident. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour t'aider? Tu es un ours qui part à la pêche aux truites. Tu te souviens de la truite au début? Ben reprends en boucle le mouvement de la truite qui remonte le courant avec le côté droit de ton corps. Et hop, hein? À gauche, tu es l'ours de Pinard et tu l'attrapes. Tu viens de l'attraper, tu passes de l'un à l'autre. Ours, carpe, voilà, ours, elle frétille, il résiste. C'est bien, c'est bien, c'est bien, détends-toi un peu, détends-toi. Détends-toi, voilà. Et quand je frapperai dans mes mains, hein, tu me proposeras quelque chose. N'importe quoi. La première chose qui te viendra à l'esprit. Alors détends. Voilà. Détends.
Je vais lui faire mon entouloupe pastèque. Ça marche toujours quand je fais l'entouloupe pastèque. Il adore ça.
Hop ! Voilà, Trista. Tu y es. Oui. Magnifique.
Qu'est-ce que je disais? L'entourloup pastèque, ça marche à tous les coups.
Bien. Bien, il faudrait que nous allions aux eaux de Vincennes tous les deux. Tiens, les singes. Ah ouais, c'est drôle. C'est drôle, j'ai pas pensé aux singes. Trop évident, sans doute. Peut-être essayer tout de même un singe. Hein? Oui, tu es un singe. Tu sais ce que Nijinsky disait à propos des singes? Il faut faire attention aux bras, ce sont eux qui nous relient aux singes. Les bras, Trista. Hein? Les bras. Tu es un drôle d'animal. Un animal mutant. Mais tu n'es pas toute seule, rassure-toi. Hein? Tous les danseurs sont des mutants. Soleil. Hein? Soleil. Oulala, oulala, mais c'est quoi cette chiffonnette que tu nous fais? Tu t'agites, mais tu n'es plus dans le mouvement. Ah non, décidément. Non. Tu es fatigué? Ah non, mais tu as le droit d'être fatigué, hein? On arrête là. Tu as été formidable. Hein, tu es formidable. Je te remercie d'être venu, Trista. Nous avons tes coordonnées, Trista. On a bien les coordonnées de Trista, Jean-Philippe? Oui, bien. Eh ben, c'est très bien, on t'appellera dans la semaine.
Il va me rappeler. Je suis sûre qu'il va me rappeler. J'ai bien senti qu'au moment du chien, ça passait, le courant entre nous. Ça passait vraiment. Pauvre Kiki, quand on y repense. Sous la voiture, il faut dire, on n'a pas idée.
Très bien. Camille, vous vous appelez... Camille, n'est-ce pas? Hein, je peux vous tutoyer. Ce sera plus simple. Camille, je te propose un voyage dans le temps. Du poisson à l'homme ou à la recherche du chaînon manquant. Ce sera le titre de mon prochain spectacle. Camille, tu m'écoutes? Ton corps est hospitalier. Ton âme ouverte.
Chasse et croisée, le ficus, avec Garance Clavel.
Nous habitions un appartement plein de plantes vertes. Il portait des pantalons framboises écrasés et aussi... Il était très fier de son passeport avec tous les visas dedans, les visas détournés. Il les avait fait photocopier, ces visas, pour les scotcher dans l'entrée. Il avait une collection de chemises étriquées qu'il portait fermées jusqu'en haut. Mais dans la maison, il était le plus souvent en peignoir. Un peignoir blanc immense qu'il avait volé au Lutetia. Ce qu'il était allé faire au Lutetia. C'était un garçon comment dire, un garçon flottant. Et moi aussi je flottais, et nous flottions tous les deux comme des nénuphars dans ce grand appartement avec vue sur les toits. Nous faisions partie du paysage. Pendant des heures, il essuyait les feuilles des ficus, et je me demande aujourd'hui à qui ça faisait le plus de bien. À la plante ou à lui? Avec la même application, la même douceur, la même patience obstinée, il me caressait. Comme si tout méritait la même attention. Les chevilles et les feuilles, les nervures et la bouche, le mollet, le tronc, les lignes de la main. Chaque centimètre carré de mon corps, comme on effleure le dos des livres d'une bibliothèque qui vous impressionne. Des heures comme ça. Ficus, poignet, ficus, omoplate, ficus, 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 coude, clavicule, plante des pieds. Je devenais une branche sur le lit, un tronc prenant ses racines dans les plis du drap. Alors il lissait les draps, la paume bien à plat, en le regardant avec la même bienveillance. Tout pour lui était égal, ça lui était égal, tu comprends, égal, indifférent. Et pourtant il était attentif. Comment expliquer ? Un corps qui bouge pleinement, absolument présent, mais présent à une autre réalité. Voilà. Comme un danseur qui danserait merveilleusement, mais pas pour toi. On en voit comme ça dans les boîtes de nuit vers 5 heures du matin, des filles surtout. Les paupières baissées au centre de la piste, très belles. Et puis soudain elles ouvrent les yeux, se dirigent vers le vestiaire sans un regard pour ceux qui restent. Elles repartent seules. Sans que personne n'ose les raccompagner, non. Personne n'insiste, personne n'ose insister, et leurs talons claquent dans les rues désertes. Lui, c'était un peu pareil. Il essuyait, et quand il n'y avait plus rien à essuyer, il bromisait, et puis, sans prévenir, son peignoir glissait de ses épaules et s'affaissait sur le plancher, formant une sculpture textile toujours très organique, comme s'il s'agissait d'une mue. Il s'habillait, passait de l'éponge au cuir, de la blancheur laiteuse aux framboises écrasées. Il devait sortir, je dois sortir, disait-il d'un air préoccupé. Il ne me proposait pas de venir, ne disait pas ce qu'il allait chercher, ce qu'il lui fallait soudain de façon urgente. Parfois, je le suivais sans lui demander son avis. Il ne me repoussait pas, ne m'attirait pas non plus. Nous marchions longtemps. Deux danseurs qui marchent l'un derrière l'autre dans la rue. Même en ne faisant rien, cette façon d'attaquer le sol, de rebondir. Tout de suite, on savait que c'était avec ces mêmes corps que nous faisions l'amour, ces mêmes corps pliés, pendus, portés et tirés. Que nous montions sur scène. Des fleurs. Il lui fallait des fleurs. Les acheter, les cueillir, les voler, les arracher, il n'avait aucun scrupule. Il dévalisait les plates-bandes municipales, les cours d'immeubles. Jusque dans les cimetières, il allait satisfaire son besoin compulsif d'accumulation végétale. Nous rentrions chargés. Il disposait son butin dans des vases que nous avions nombreux, posés comme des sentinelles en haut du placard. Quand il était heureux, son visage devenait plus large. Il s'habillait toujours de façon théâtrale et écrivait en pattes de mouche. Longtemps, j'ai gardé ces petits mots qu'il me laissait sur la table de la cuisine. Il avait une voix bouleversante, triste et profonde. Nous ne parlions jamais de ces petits mots. Ce qui était écrit appartenait à un autre monde. Il dansait dans une compagnie cosmopolite qu'il avait créée, une compagnie qui s'appelait « The Blume von Utzquart », ce qui veut dire « les fleurs du mal » en flamand. Les répétitions avaient lieu dans un hangar près du fleuve. Il travaillait dans la pénombre. Il avait une théorie assez particulière sur la façon d'éclairer ses spectacles. Il prétendait que la lumière gommait l'histoire. Que c'était du papier buvard, un masque lissant, une couche qui se déposait à la surface du corps et qu'il fallait essuyer. De la même façon qu'il essuyait les feuilles des ficus pour les débarrasser de ce dépôt blanchâtre qui les empêchait de respirer. La lumière, la scène, l'illusion. Créer l'illusion, mais l'illusion de quoi ? Du réel ? Quoi de plus réel qu'un corps ? Pourquoi gommer ses aspérités ? Il se mettait en colère quand il parlait de la danse. Ça le rendait nerveux. Comme s'il était attaqué. Comme s'il avait quelque chose de très important à défendre. Quelque chose de précieux qu'il devait cacher dans un sac en papier pour ne pas être pris en faute. Il avait assisté dans le métro à une scène qui l'avait marquée et qui résumait assez bien ce qui mettait dans ce mot-là. Danser. La rame était bondée. Un père et sa fille étaient debout près de lui. Le père avait demandé entre deux stations... Qu'est-ce que tu désires le plus dans la vie ? En guise de réponse, la petite fille s'était blottie contre lui. Puis elle avait ajouté : Ce serait bien si on était moins serré. Il aurait aimé créer une danse autour de cette phrase, de cette situation. Se blottir contre son père pour être moins serré, ça lui parlait, ce genre de choses. Ça lui donnait la chair de poule. Et moi ? Et moi, qu'est-ce que je désirais le plus au monde ? Il m'avait posé la question, je n'avais pas su quoi répondre. Il avait haussé les épaules comme si ça ne l'étonnait pas au fond que je ne désire rien en particulier. Je crois que pour lui j'étais une plante singulière, mais une plante tout de même. Je ne devais pas le prendre mal, dans sa bouche c'était un compliment. Je me souviens que le jour de la fête des mères, il portait un œillet rouge au revers de sa veste kaki. Il s'était étonné que je ne connaisse pas la tradition, moi qui venais d'une famille on ne peut plus classique. Porter un œillet rouge à la boutonnière le jour de la fête des mères. Encore fallait-il avoir une boutonnière et une mère. Lui qui avait grandi à la campagne dans une famille d'accueil qui élevait des poules et des cochons. C'est peut-être ça qui me fascinait le plus chez lui. Comment celui-là, justement, était devenu danseur ? Par quel chemin il avait rencontré la danse ? Il m'avait raconté que c'était grâce à un feuilleton qu'il avait vu à la télé. L'histoire se déroulait à l'Opéra de Paris, ça s'appelait « Les temps heureux », je ne sais plus, oui, quelque chose avec le mot « bonheur ». On voyait des extraits de spectacles. On suivait les danseurs dans les coulisses. Une porte était entrouverte. On découvrait l'atelier des costumes. Plus loin, les loges, les grands miroirs, les tables de maquillage. Un vrai conte de fées. Alors il avait déclaré à sa prof de français au collège qu'il voulait travailler là, dans cet endroit-là, qui portait ce nom étrange de Palais Garnier. Elle lui avait présenté une amie professeure au conservatoire, il avait suivi des cours de classique, il était doué. L'histoire du feuilleton m'avait impressionnée. Moi qui n'avais le droit de regarder la télé qu'au compte-gouttes. Pour moi, ça ne s'était pas passé de façon aussi poétique. Un médecin avait conseillé à ma mère de m'inscrire à un cours de danse parce que j'étais malingre et qu'il fallait, disait-il, que je prenne corps. J'entends encore sa voix. Mais c'est qu'il y a de la grâce là-dedans, avait-il commenté en soulevant mon poignet qu'il tenait entre deux doigts comme on soulèverait le couvercle d'un plat longuement cuisiné. Le feuilleton à la télé, rétrospectivement, ça me faisait rêver. Je crois qu'on pouvait parler d'amour, même si nous n'avons jamais prononcé le mot. Enfin, ça ne m'est plus jamais arrivé une chose pareille. À ce point-là d'abandon. J'attendais tout de lui. Il m'en a donné trop. Trop, mais à côté... Comme on arrose une plante à côté de son pot. Je pouvais bien pâlir, jaunir, perdre mes feuilles, il n'y voyait que le signe d'un changement de saison. Un soir, je l'ai quitté. Je l'ai planté, là, avec sa chiffonnette et son brumisateur. Du jour au lendemain, avec la même facilité que lui quittait la pièce quand il avait besoin d'aller rafraîchir son stock de fleurs. J'avais décidé de préparer le concours de bagnolet, je devais faire un choix. Enfin, j'ai eu la sensation que je devais faire un choix parce qu'au fond, rien ne m'obligeait à choisir. Serait-il condamné à vivre seul celui qui s'engage dans ce genre de métier ? À l'époque, la question se posa en ces termes. C'était lui ou la danse. J'ai été reçue au concours de bagnolet. J'ai travaillé. J'ai oublié. J'ai rencontré d'autres garçons qui ne savaient rien de cette plante originaire des Indes et que l'on nomme ficus ou figuier pleureur. Rien de ces chenilles minuscules qui prennent possession des feuilles et qu'il faut une à une écraser entre les doigts. Rien des horaires d'ouverture et de fermeture des cimetières, ni de ces papiers chinois qui, mieux que les gélatines, diffusent la lumière sans brûler le grain de la peau. 2 ans après notre séparation, j'ai eu des nouvelles par un ami commun. À mon départ, il avait quitté l'appartement et abandonné la danse. Et puis plus rien. Il avait disparu. Je pense à lui souvent. Je me dis que j'ai raté quelque chose. Je me cogne à son absence, à son renoncement. Je me sens responsable de cet abandon. Je me demande ce qu'il est devenu. Souvent, j'ai essayé de le retrouver. Je suis même allée au Lutetia, à Paris. Et j'ai demandé s'il connaissait un client répondant à son nom. Son nom. Tu veux savoir son nom ? C'est drôle. J'ai pas envie de te le dire. Comme si c'était la seule chose qui m'appartenait vraiment. La seule chose qui me prouvait son existence. Cette façon de mettre ses bras en collier autour de mon cou. Cette façon si lente, exaspérante, de me mener au plaisir. Je garde ça aussi. Le souvenir de ça. J'y pense chaque fois que je danse. Et je me dis qu'un jour il sera là, parmi les spectateurs. J'aimerais enfouir mon visage dans le creux laissé par sa tête sur l'oreiller. L'appartement passe encore, mais pourquoi avoir laissé tomber la danse ? La troupe s'est disloquée peu de temps après son départ. Personne ne s'en souvient aujourd'hui. Il ne reste rien de leur spectacle dans la pénombre.
Chassé-croisé de Marie Nimier.